Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à la géographie serbe et s'intitule « L'écriture et la sainteté dans la Serbie médiévale ». En effet, tel est le titre d'un livre paru en 2017 aux éditions Brepols et à celle de l'École pratique des hautes études. Son auteur, Zmilja Marjanović Dušanić, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Belgrade, est avec nous pour en parler. Zmilja, bonjour. Commençons par quelques mots sur le titre de cet ouvrage qui mérite un commentaire. Écriture et sainteté.
Bien, c'est exactement une étude de la géographie. Ça veut dire qu'elle porte à l'essentiel sur un corpus qui est assez riche des sources serbes. Ce sont les sources qui s'échelonnent de la fin du XIIe jusqu'à XVe siècle. Bien sûr, les auteurs de ces géographies appartenaient à une élite intellectuelle, plutôt une élite agiorite de Montatos, donc une élite éduquée, mais il y a toujours, quand il s'agit des textes hagiographiques ainsi que des textes qui entrent dans la liturgie, d'un rapport spécifique entre le public et le texte. Alors, parce que ces textes parlent de la sainteté spécifique pour l'État serbe, une sainteté dynastique, c'est normal qu'un titre soit entre l'écriture et la sainteté, donc c'est une étude de la géographie.
Très bien, merci. Alors évidemment, quand on parcourt les pages de ce livre, qui est un peu le reflet de cours que vous aviez donné il y a quelques années à l'École pratique de hautes études dans le séminaire de Berlin-Flusin, puis je crois que vous avez donné des conférences également à l'IRBIMA, c'est-à-dire le Centre des études byzantines de l'Université de Paris 5. Ce qui étonne beaucoup, je dirais, le lecteur, je dirais, occidental peut-être, c'est ce rapport qu'il y a entre les notions de sainteté et la politique. Vous venez de dire, nous avons affaire à une dynastie, et à partir d'un moment, cette dynastie va être presque identifiée à la sainteté traditionnelle serbe. On a affaire à des milieux intellectuels, mais très proches du monachisme attonite, qui est le sommet du monachisme hein, à l'époque, la référence absolue. Alors comment s'articulent tous ces pouvoirs, je dirais, parce qu'en fait, c'est une relation entre la sainteté et le pouvoir aussi.
Oui, bien sûr. La spécificité de ces sources, elle réside dans le fait que la plus grande partie de la géographie serbe est consacrée à la célébration de la sainteté des membres de la dynastie. C'est la dynastie serbe des Némanides qui a régné, qui a siégé sur le trône à partir de la deuxième moitié de XIIe jusqu'à la fin de XIVe, presque la fin de XIVe.
C'est les Némanides, comme on dit d'habitude.
Ce sont les Némanides, oui. Mmh. Et tous ces cultes qui se sont produits et construits par la géographie, mais pas seulement par la géographie. Tous ces cultes proviennent d'un mécanisme qui est, je pense, très facilement reconnaissable, qui a caractérisé l'apparition des cultes similaires au sein de l'espace européen. Ils répondent, et c'est essentiel, à un désir qu'approuvent les gouvernants de bas Moyen-Âge de se doter d'une légitimité sacrée. Et donc, c'était en effet une façon unique de promouvoir ces nouveaux peuples sur la scène politique, sur la scène politique européenne, et de manière qui est propre au Moyen-Âge, de marquer leur entrée dans l'histoire sacrée. C'est le but.
Donc nous allons nous concentrer dans cette histoire de rapport entre la sainteté et la politique. D'abord peut-être pour voir les deux personnages, je dirais, principaux, qui sont un tout petit peu les fondateurs et qui finissent par créer un couple même de sainteté. C'est très important et c'est très intéressant de voir ça. Alors quel est le premier, hein, je dirais, le père fondateur de tout ça?
C'est un contexte politique dans lequel s'est formée la géographie serbe et D'abord, ce sont les textes composés à l'honneur de la dynastie Némanide, qui est fondée par Stefan Némania, Étienne Némania, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et cette série commence avec l'œuvre d'un prince de cette lignée, c'est son fils Sava, qui est d'abord comme un jeune homme devenu moine au monastère atonite de Hilandar, et qui a après consacré à son père, Stéphane Némania, qui est aussi allé à Mont Athos, et aussi devenu moine Siméon. Il a donc son fils à consacrer la première vie, qui est une vie brève. Puis après, le couple sang qui s'est formé au sein de la du tournement de début de 14e siècle et célébrés sont les Saint Siméon et Saint Sava qui sont célébrés comme les protecteurs de la patrie. C'est évident que même au Moyen Âge et puis après, pendant les siècles de la vie de l'Église serbe sous l'occupation turque, ce couple saint a eu un rôle de protecteur de la patrie et un rôle qui est très important politiquement, idéologiquement, comme les gardiens de contre l'oubli de l'État médiéval. Alors, on peut suivre le destin de ce culte de couple saint dans les siècles jusqu'à le XXe. Même, par exemple, dans les guerres balkaniques, au début du XXe siècle, c'était les soldats qui ont vu devant les troupes Saint Siméon et Saint Sava sur les chevaux blancs.
C'est un peu l'image de Constantin.
Oh oui, bien sûr, c'est la même chose.
Voilà, c'est ça. Le modèle du 4e siècle transposé sur des saints serbes du 12e, 13e, oui, c'est ça, c'est merveilleux. Donc, on va parler aussi un tout petit peu du monastère de Hilandar, qui est le monastère Euseb à Latos, parce que on voit bien que le rapport entre la royauté serbe et Latos est quand même très, très étroit. On les voit aller là-bas, c'est presque comme si la sainteté venait de Latos. Hein, c'est
pas oui, bien sûr. Surtout les influences de l'écriture sainte, de tradition hagiographique, les traditions intellectuelles, tous venaient de Mont Athos. Mais l'influence de Mont Athos est un peu précédée par un processus de sacralisation de la région entière et de la fondation des Hesicasteria, qui sont situées autour de larges communautés cénobitiques.
Ce sont des ermitages, en fait.
Oui, les ermitages qui servaient comme substitut fonctionnel pour les déserts monastiques. L'idée fut initialement liée, en Serbie du début du XIIIe siècle, à l'activité de Saint Sava, qui s'est inspirée du modèle des ermitismes palestiniens. Alors, c'était d'abord ce phénomène qui apparaît dans le cadre d'une société préurbaine, une société dans laquelle le monastère jouait, toute proportion gardée, le rôle des villes, avec les fonctions économiques, avec les fonctions sociales, avec les fonctions politiques. Mais l'apparition d'une hagiographie formée, qui est la géographie mûre formée sous l'influence atonite. Elle est liée dans les pays serbes à l'ascension de la dynastie de Némanide. Et c'est l'héritage hagiographique serbe, si on le regarde dans la totalité, qui représente un vaste corpus de sources et une caractéristique importante de ces textes est l'appartenance de leurs auteurs aux plus hautes strates sociales. Donc, ce sont les strates qui étaient les détentrices du pouvoir politique ou du pouvoir ecclésiastique, bien sûr les deux, tout en étant étroitement liées au centre et au cercle monaco-atonite. C'est ça. Pratiquement tous les auteurs viennent de Mont Athos. les auteurs, les hagiographes de 13e, de 14e siècle. Un d'eux était Daniel. Il était d'abord higoumène de Hilandar et puis après l'archevêque de Serbie. Donc, vous voyez cette liaison très forte entre le pouvoir, ecclésiastique et le pouvoir séculier, parce que, bien sûr, le choix de l'archevêque était dans la main du roi.
Nous allons maintenant faire une pause et on va dans l'église, et pas n'importe laquelle, dans l'église du monastère de Hilandar, qui reste un des grands monastères attonites, bien sûr, et toujours en activité. Alors, il chante un extrait du psaume 102, de la Septante, la numérotation de la Septante. Et là, on va voir, c'est très intéressant parce que c'est en alternance, un verset en grec et un verset en serbe liturgique. Retour à notre conversation avec Smilja Marjanović Dušanić sur l'écriture et la sainteté dans la Serbie médiévale. Nous étions dans l'église du monastère de Hilandar, au Mont Athos. Deux mots sur ce monastère qui est une référence absolue pour, je pense, pour l'église serbe.
Oui, elle est liée au début à deux personnages, San Sava et puis San Simeon. C'est donc au début des années 80 du 12e siècle, que le prince serbe, Rastko Nemanjić, futur San Sava, devient résident de cette communauté monastique de Mont Athos. Il commence son séjour dans le monastère russe de Pantélémon, qui avait une bibliothèque célèbre. Célèbre d'abord pour ses traductions de livres grecs en langue slave. Et le moine Sava a ensuite séjourné à Vatopedi, un autre monastère à Mont Athos, où il a appris la langue grecque et où il a entamé une fructueuse coopération avec les moines grecs. Alors, après l'arrivée de son père, Stéphane Nemanja, devenu Simon, moine Simon, au Mont Athos, c'était en automne 1197, le père et les fils ont, en tant que membres illustres de cette communauté attonite et cousins de l'empereur byzantin Alexis Ange, Ils ont réussi, par charte de donation de l'empereur Alexis Ange, ils ont réussi à obtenir de l'empereur un vieux monastère grec attonite qui était abandonné. Et c'est à cet endroit qu'ils ont érigé Chilandar. Donc, par les efforts de Sava, et grâce à son propre travail littéraire, ce monastère est devenu un foyer, disons, de la spiritualité de la littérature serbe. Et parmi les premières œuvres de Sava se trouve la charte de fondation du monastère de Chilandar, issue en 1198, donc dès qu'ils sont venus là-bas, avec une proémia très importante sur le pouvoir séculier, le pouvoir spirituel.
Un préambule.
Ainsi, le typicon de Chilandar et celui de Cariès. Le typicon de Cariès était écrit pour un ermitage, une sorte d'atelier littéraire que Sava a érigé à Cariès, à l'instar de ses modèles palestiniennes.
Cariès étant la capitale de Latos,
oui, la capitale de Latos. Donc, c'était un atelier littéraire de sorte et il l'a consacré à son protecteur sans sa base de Jérusalem. Alors, le typicon est un texte qui est devenu la norme de l'anachronétisme serbe tout entier. Et aussi, le typicon de Chilandar est une traduction adaptée de typicon de Theotokos Evagetis. Et Sava a aussi composé un récit hagiographique pour son père, qu'il a célébré comme fondateur de monastère. Aussi, une office à Saint-Simon. Alors on voit la manière dont on a construit le culte. Et donc par cette charte de fondation d'abord, cette charte et la préambule de cette charte était très importante. Elle a influencé le typicon de Studenica, le monastère qu'ils ont érigé, que son père a érigé en Serbie.
Donc, on voit bien la filiation. C'est un typicon qui est fait sur celui de Theotokos Evagetis, donc un monastère byzantin.
Oui.
C'est copié pour Latos, et de Latos, ça passe tous à Studenica, donc en Serbie.
Tous ces textes sont nés sous une grande influence de la littérature byzantine. Et pas seulement les hagiographies, mais tous les autres, les éloges, les offices, les typica, alors c'est toujours une sorte de répétition des influences byzantines, mais avec beaucoup de spécificités, surtout parce que le but de ces hagiographies, donc ce n'est pas la question de l'érudition, c'est tout à fait grec et byzantin. Mais le but était différent, était de célébrer la dynastie locale et de créer un type de sainteté qui n'était pas commun à Byzance, c'est le type de saint roi.
Oui, alors on va avancer, puisque le temps ne va pas nous permettre de tout voir, bien sûr, avec ce modèle du saint roi, en même temps, et pour nous expliquer aussi un peu, si vous voulez bien, comment ce modèle fonctionne dans l'histoire de la Serbie après. Est-ce que ça s'est construit au moment seulement où ces deux personnages vivent? Le fils, on voit bien, fait tout ce qu'il faut pour que le père soit reconnu comme un saint. Le fils l'est aussi, d'ailleurs. Saint Sava, je crois que c'est un saint qui est toujours très célébré. On sait,
oui,
hein, c'est un Simeon aussi.
Populaire, enfin, oui,
le plus populaire, voilà. Et il y a la grande cathédrale.
Comme couple saint, oui. Comme couple saint aussi. Ça marche parce que leurs noms sont liés pour l'éternité comme un couple saint et spécialement comme les protecteurs de la patrie. Et c'est pour ça que pendant des siècles jusqu'à nos jours, ils sont considérés les protecteurs de Serbie.
Voilà, donc ça continue dans l'histoire sans discontinuité, si je puis dire, sans
oui,
arrêt.
Parce
sans...
que l'Église a resté le gardien, disons, de peuple serbe. Et aussi, ce qui est important, c'est que la mémoire historique des Serbes a été créée autour des principaux centres monastiques. Donc, l'Église serbe a une grande autorité dans la création de la mémoire et aussi dans la création de l'identité serbe. C'est pour ça que ces cultes de couple sang et les cultes de la sainteté dynastique, de la sainteté royale, étaient évidemment très importants. Mais aussi, il faut souligner l'importance des reliques comme gardiens de l'oubli et comme les agents de la mémoire historique. Parce que Sava a été une figure de son temps qui a beaucoup voyagé, qui a visité les lieux sacrés de l'Orient. Il était bien sûr en Égypte, il était à Jérusalem, à Sinaï. Il a amené avec lui une quantité de reliques prestigieuses qui ont eu un rôle même politique dans l'histoire d'abord du premier couronnement quand son frère Stefan, nommé le proto-couronné, était couronné en 12-17 et puis après en 12-21, après que Sava a obtenu l'autocéphalie de l'Église serbe de Nicée.
Et il faut dire que nous sommes dans un État, cet État serbe, le despotat, qui va vivre jusqu'au milieu du 15e siècle, hein, puisqu'il va être occupé après par les Ottomans, peu de temps après la prise de Constantinople.
Oui, quelques années.
Quelques années, la Serbie va également être occupée par les Ottomans. Et on voit bien aussi, merci beaucoup pour ce parcours que vous nous avez proposé, parce qu'on voit bien de quelle manière les deux éléments sont liés, la sainteté de la royauté et l'histoire de la nation. En fait, et j'ai gardé pour la fin un mot qui est attribué à un évêque serbe du 19e siècle. Vous dites vous-même dans le livre, vous reprenez ses propos, « L'Église a conservé les saintes reliques des rois serbes en faisant les témoins de la vie politique et les gardiens de la mémoire. » Et là, je crois qu'on résume très bien ce rapport très fort qu'il y a entre l'Église, les objets religieux aussi, et la mémoire de la nation. Oui. Donc, pour terminer, je vous invite, Zmila, si vous voulez bien commenter juste ce petit mot de cet évêque serbe du 19e siècle, qui confirme justement la continuité de l'histoire.
C'était un évêque du 19e qui a écrit que l'Église avait conservé les saintes reliques et que c'est des rois serbes. D'abord, c'est le corps de saint roi Stefan de Dečani, conservé dans le monastère de Dečani, à présent à Kosovo, qui est un centre d'un culte actif, qui est même aujourd'hui actif, comme est connu par les guérissons et par d'autres miracles qui sont bien notés dans les livres de monastère. Alors, ce culte de Stefan de Dečani est le représentant d'un culte par excellence de Sainte-Roi. Mais les reliques des Sainte-Rois, c'était le témoin de la vie politique et c'était le gardien de la mémoire. Et c'est pour ça que ces termes employés, d'abord par cet évêque, nous montrent une longue évolution, une évolution de la notion même de la royauté sacrée, parce que elle a eu un but, un sens au Moyen-Âge, et puis après, avec le temps, elle s'est transformée comme une sorte de fondement de l'identité nationale.
Écoutez, un grand merci, Zmila. Donc, je rappelle le titre de cet ouvrage, L'écriture et la sainteté dans la Serbie médiévale, par Zmila Marjanović-Dusanić, livre paru en 2017 aux éditions Brepols et à l'École pratique des hautes études. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Valérie Lavalard. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.